Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir en cette soirée du jeudi 5 août. On toque, on retoque, on valide et on ratifie. L'extension du pass sanitaire a donc été approuvée cet après-midi par le Conseil constitutionnel avec quelques aménagements que nous allons vous détailler, décrypter dans un instant. Oubliez par exemple l'isolement de 10 jours en cas d'infection au Covid. Et puis dès lundi prochain, si vous travaillez dans un lieu public, il vous faudra disposer du fameux pass sanitaire. Mais en aucun cas, la non-vaccination ne pourra être un motif de licenciement pur et simple. Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux et avocat justement barreau de Marseille, se penchera avec nous sur ce dossier sensible dans moins de 5 minutes maintenant. Et puis faire vos courses dans certaines enseignes d'un centre commercial, ce ne sera pas chose aisée visiblement. Ou alors, montrer patte blanche par exemple pour se faire opérer, sauf en cas d'urgence. Là aussi, il y a débat. Et le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtoux, sera notre invité dans 10 minutes pour évoquer avec lui les toutes nouvelles directives sanitaires. Le Premier ministre Jean Castex vient de féliciter en tout cas l'organe pour l'instant du Conseil constitutionnel d'avoir validé cette loi qui va permettre, je cite, le plein déploiement de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Les sports, les Jeux Olympiques de Tokyo et ce beau bilan de santé du sport collectif français avec chez nos messieurs les qualifications pour leur finale olympique pour les volleyeurs, les handballeurs et les basketteurs. Le basket au bout du suspense, 90-89, l'un des joueurs de l'équipe de France, Nando De Colo.
J'ai dû prendre 2 secondes après le buzzer pour réaliser ce qui se passait. Ce qui est bien, c'est qu'on va rentrer avec une médaille. Ça fait longtemps qu'on la cherche. Maintenant, c'est pas encore fini. On va profiter, bien se reposer et être concentré sur la finale pour aller chercher la médaille d'or.
Et la finale sera contre les États-Unis, ça fait rêver. La 26e et la 27e médaille pour la délégation française. Une d'or déjà, Steven Dacosta au karaté. Kevin Mayer, perclus de douleur, qui décroche tout de même l'argent au décathlon. La météo, Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir Louis Baudin. Patience, patience, un jour, c'est sûr, ce sera l'été.
Oui, un jour, mais alors pas encore demain, où effectivement on conservera un ciel souvent nuageux, avec quelques éclaircies. Alors éclaircies un petit peu plus belles quand même en cours d'après-midi, sera un tout petit peu mieux ou un peu moins mal qu'aujourd'hui. Dans le sud, on aura toujours beaucoup de soleil, notamment près de la Méditerranée ou encore sur la côte atlantique. Et puis avec ce ciel un petit peu plus lumineux, les températures remonteront un peu. 19 à 24 degrés dans la moitié nord l'après-midi, 24 à 25 degrés dans les régions du sud-ouest et 28 à 31 même près de la Méditerranée.
Tout à l'heure, Louis Baudin, 18h30 pour un nouveau grand point météo, bien sûr, de RTL Soir. Juste, ça sera juste après. Hein. Votre plateau télé signé Laurent Marsic. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
9 sages donc pour valider tout à l'heure l'extension du pass sanitaire souhaitée par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis avec quelques ajustements. Thomas Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
On va voir tout cela en détail. Cela concerne tout d'abord le travail par exemple et l'accès aux soins qui sont vraiment des choses très importantes dans ce dossier et dans cette proposition de loi de la part du gouvernement. Et puis également, il y a l'isolement de 10 jours qui faisait vraiment débat, Thomas. Ça y est, on a tranché.
Voilà, en effet, premier revers pour le gouvernement. L'isolement obligatoire après un test positif avec sanction pénale en cas de sortie du domicile. Les sages estiment qu'une telle privation de liberté automatique et sans examen des situations individuelles est disproportionnée. L'article est donc censuré. On en reste à l'isolement fortement recommandé actuellement en vigueur. Deuxième revers sur le pass sanitaire cette fois-ci. Pour les employeurs des entreprises concernées, restaurants, commerce ou transport, il ne sera pas possible de rompre le CDD d'un salarié qui refuserait le pass. C'était prévu par la loi. Le Conseil constitutionnel considère que ce serait une rupture d'égalité avec les CDI pour lesquels le texte n'a pas prévu de licenciement. Enfin, sur l'accès aux établissements de santé. Sujet sensible. Vous le disiez, les sages rappellent qu'il ne peut être fait obstacle au principe de l'accès aux soins, ce qui signifie que l'obligation du pass sanitaire pour les rendez-vous médicaux hors urgence est validée, mais que les soignants conservent une marge d'appréciation, QR code ou pas.
On va en reparler avec Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL, et puis notre invité Frédéric Valtoux dans 5 minutes, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. Pour le reste, Thomas Proutot, rien à redire pour du côté des sages, non ?
Absolument. Le Conseil estime que le pass sanitaire est pleinement conforme à la Constitution. Pour les sages, les restrictions apportées à la liberté d'aller et venir sont proportionnées à l'autre objectif, lui aussi de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire la protection de la santé. Et le Conseil s'avance même sur le terrain épidémiologique, puisqu'il juge les mesures mesures envisagées, que les mesures envisagées permettent en effet de limiter la circulation du virus. Le Conseil rappelle toutefois de manière ferme que ces mesures devront être immédiatement levées si le contexte sanitaire ne les justifie plus.
Jusqu'au 15 novembre en tout cas, cette date pour l'instant, pour tout ce qui est constitution. Aujourd'hui, on rappelle que la loi devrait être appliquée à partir de lundi, on est bien d'accord.
Absolument, quand le gouvernement l'aura promu.
Merci mille fois Thomas Proutot pour toutes ces explications. Beaucoup de salariés attendent en tout cas avec impatience cette validation et savoir comment s'organiser. Pierre Urbulo, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et la crainte, on vient de l'évoquer rapidement, avec, c'est vrai Thomas Proutot, cette crainte d'être licencié, surtout quand on est CDD tout simplement, en tant que non vacciné, dans un travail où vous êtes en contact avec du public. Alors cette crainte s'évapore un petit peu ce soir, on parle juste de suspension Pierre.
Oui, en fait les sages ont jugé que ne pas être protégé contre le Covid en quelque sorte n'est pas un motif suffisant pour perdre son travail, c'est ce qui était prévu dans le texte du gouvernement pour les CDD et l'intérim. Une rupture pure et simple du contrat quand les salariés en CDI, eux, étaient simplement suspendus. Le Conseil constitutionnel vient donc de mettre fin à cette inégalité, une différence de traitement qui n'avait aucun lien avec l'objectif poursuivi, à savoir freiner l'épidémie, précise l'institution. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? La date à retenir pour les salariés, c'est le 30 août. On va prendre l'exemple d'un serveur d'un bouchon lyonnais. Si à cette date-là, il arrive sur son lieu de travail sans passe sanitaire, il sera suspendu avec retrait de salaire. Deux solutions possibles. Un, le serveur régularise sa situation en se faisant vacciner ou en présentant tous les deux jours un test PCR négatif. Deux, il s'arrange avec son employeur pour ne plus être au contact du public en passant à la plonge, par exemple. Le problème, c'est si aucune des deux options n'est possible. Cette fois, c'est le patron qui a deux solutions. Mais se mettre dans l'illégalité en prenant le risque de faire travailler quand même le salarié, ou alors se séparer de lui. Attention, embouteillage à prévoir au prud'homme à la rentrée.
Restez avec nous, on va recevoir Jérôme Gavaudan sans plus tarder. C'est le président du Conseil national des barreaux et avocat au bureau de Marseille. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Suspendre plutôt que de licencier, on s'y attendait un tout petit peu. C'est la meilleure solution aujourd'hui d'ici le 15 novembre.
Oui, c'est une solution qui était prévisible. Je pense quand même que si on lit bien la décision du Conseil constitutionnel, globalement, elle est très sévère vis-à-vis de ce qui est mis en place. Parce qu'il y a deux mesures phares qui sont effectivement annulées. C'est la question de l'autoconfinement et la question du contrat de travail, vous l'évoquiez. Et c'était des vraies mesures qui étaient importantes et qui sont sanctionnées purement et simplement. C'est-à-dire que c'est objectivement sévère.
L'autoconfinement, on le rappelle, la règle des 10 jours, l'isolement, c'était une question de liberté. C'est autre chose encore.
C'est totalement une question de liberté. Sur la question du contrat de travail, vous rappelez aussi que le gouvernement avait proposé un texte où il y avait une automaticité du licenciement dans tous les cas de figure, et ensuite il a réservé effectivement au contrat à durée déterminée, et c'est là que le Conseil constitutionnel casse.
Mais sur, oui, parce qu'il y aurait, comme disait si bien
une rupture Proutot, d'égalité.
Voilà, cette rupture d'égalité, on est bien d'accord, entre CDI et CDD.
Monsieur Proutot, le CDD, lui, il perdrait son emploi, alors que le CDI pourrait trouver des aménagements ou trouver une solution avec son employeur, comme vous venez de le dire. L'autoconfinement, c'est une mesure vraiment attentatoire aux libertés, mais globalement, si vous voulez, quand on analyse les réserves, puisque le Conseil constitutionnel, c'est un peu subtil, mais c'est important de les lire, de les regarder, émet des réserves, y compris sur le pass sanitaire, il prend en compte effectivement les données qui sont produites par le gouvernement, sa volonté de respecter un principe constitutionnel qui est celui du droit à la santé, mais à plusieurs reprises, il affirme comme position de principe que c'est en soi, ce qui est fait, est en soi attentatoire aux libertés. Et il considère que la proportionnalité, puisque c'est sur le principe de proportionnalité qu'il juge, dans des circonstances bien précises et aux conditions qu'il met lui-même dans ses commentaires de sa décision, et parce que cela est limité dans le temps, et parce que aussi ça évite le principe de la vaccination obligatoire, il estime qu'au total, dans une période déterminée dans le temps et dans l'espace, la loi n'est pas dans l'ensemble déclarée constitutionnelle.
Voilà, on touche pas à la Constitution, ce qui veut dire que d'ici le 15 novembre, on peut prendre ses RTT, on peut prendre ses vacances, et voir trouver d'autres solutions. Comme on disait, un serveur qui passe à la plonge pendant un petit moment. C'est pas non plus un congé sans solde, on est d'accord?
Ah non, c'est absolument pas un congé sans solde, c'est une suspension du contrat de travail, sans effectivement paiement des salaires.
Bah, sans revenu.
Oui, sans revenu. Et c'est ce qui est un peu étonnant, en ce sens que le Conseil constitutionnel a été sans doute timide par rapport à sa jurisprudence habituelle, parce que, qu'on le veuille ou non, la suspension du contrat de travail, l'absence de rémunération, ça apporte atteinte à un principe aussi constitutionnel qui est la dignité de la personne humaine. Sans rémunération, vous n'avez pas de vie digne. Or là, le Conseil constitutionnel l'a validé. Il a estimé que pour des raisons sanitaires, on pouvait ne pas avoir de revenus. Il y a une forme, on peut dire, d'hypocrisie, puisqu'il consacre le droit de ne pas forcer à avoir effectivement la vaccination, mais il prive le salarié, il admet qu'on peut priver le salarié de sa rémunération. On comprend bien qu'il faut inciter les gens à se faire vacciner.
Jérôme Gaveau, donc on comprend bien la pression pour se faire vacciner. Donc ça veut dire que si on n'est pas vacciné, que si on veut quand même travailler au-delà de ce pass sanitaire, on peut le faire quand même si on fait un test à chaque fois PCR, tous les deux jours ?
Un test PCR tous les deux jours, ou si effectivement on finit par présenter un pass sanitaire. Ce qui est très étonnant, si vous voulez, sur la question des principes, c'est que vous pouvez tout à fait être vacciné, avoir vos deux doses, et ne pas souhaiter montrer votre état de santé ou votre niveau de vaccination.
C'est ma liberté de dire que je suis ou pas vacciné, vous voulez dire ?
Exactement. Et c'est une liberté fondamentale parce que vous montrez, effectivement, et c'est là que le Conseil constitutionnel, on voit bien qu'il est très mesuré, parce que vous montrez à quelqu'un qui n'a pas autorité, c'est-à-dire un cafetier, que par exemple, et c'est ma situation, j'ai un pass sanitaire sur lequel il y a un sur un, et que donc j'ai eu la maladie. Et que donc je suis obligé, en montrant mon pass sanitaire, de montrer mon état de santé, ce qui est quand même assez révolutionnaire dans le droit de la santé.
Dans le droit de la santé du secret médical, bien sûr. Juste très simple pour conclure, Jérôme Gaveaudan. Aujourd'hui, si je ne suis pas vacciné, que je ne peux pas travailler sur la terrasse de mon café, quand je reviens, je trouve le même poste. Je suis chef de rang, par exemple, même poste.
L'employeur est évidemment tenu, effectivement, de conserver le salarié dans les mêmes conditions. Quand c'est un CDI, il pourrait peut-être prononcer un licenciement, puisque la ministre du Travail a dit que c'était possible. Le Conseil constitutionnel ne dit pas que c'est impossible. Mais comme vous l'avez vous-même évoqué en annonçant dans vos titres, bonjour les conseils des prud'hommes et bonjour le caractère illégitime qui serait peut-être jugé dans quelques années par les conseils des prud'hommes, les cours d'appel, voire la cour de cassation, qui pourrait estimer que la prise en compte de l'état de santé ou du niveau de vaccination de quelqu'un pour prononcer la rupture de contrat de travail revêt un caractère abusif.
J'ai bien compris, on n'est pas au bout de nos peines. Jérôme Gaveaudan, président du Conseil national des barreaux et avocat au bureau de Marseille, était notre invité en direct dans RTL Soir.
RTL Soir. Christophe Paco.
L'emploi et autres grands dossiers, bien sûr, la santé, avec Odile Pouget qui nous rejoint dans ce studio. Bonsoir à vous,
bonsoir
Odile.
Christophe, bonsoir
Christophe, spécialiste
à tous.
Santé, bien sûr. Le Conseil constitutionnel, tout à l'heure, a validé l'obligation du pass sanitaire. Pour les visiteurs ou les patients non urgents, on va être très clair, dans les établissements de santé et les maisons de retraite, tant que ce dernier ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. On décrypte ?
Alors, tous les patients, exactement, devront avoir été testés ou vaccinés pour accéder à leur rendez-vous dans un établissement de santé. Cela exclut en effet les urgences. On n'exigera pas votre passe sanitaire si vous êtes amené par exemple par les pompiers pour une jambe cassée ou un infarctus, mais pour toutes les consultations et les soins programmés, coloscopie par exemple, une radio, une opération de la hanche, eh bien il faudra montrer patte blanche. Oui. Cela vaut aussi exactement pour les visiteurs des résidents de maisons de retraite. Les sages ont quand même conditionné leur feu vert, et c'est important, au fait que ce pass sanitaire ne doit pas faire obstacle aux soins et laisse la décision à l'appréciation des soignants. Alors on sait que le Conseil de l'Ordre des médecins, par exemple, s'est vivement inquiété ces derniers jours de voir certains patients privés de soins parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Alors qu'on sait que la crise sanitaire a déjà entraîné des retards très importants de diagnostic, d'intervention. Le corps médical craint également des tensions très fortes à l'entrée des établissements avec les proches des patients soumis aussi à ce dispositif. Alors, qui va organiser ces contrôles ? Comment ça va
se faire ? Les médecins, l'accueil, les soignants,
voilà,
le stagiaire ?
Il y a beaucoup de questions en suspens ce soir.
Ben justement, vous le connaissez bien, il est avec nous. C'est votre domaine, Odile Pouget, c'est Frédéric Valtoux qui est le président de la Fédération hospitalière de France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez bien compris, bien analysé cette proposition du gouvernement, bien sûr, qui a été validée aujourd'hui. Et ce petit mot très important, la loi ne peut faire échec à l'accès aux soins. Comment allez-vous vous y prendre, justement, pour décider qui on peut soigner ou pas dans l'urgence ?
Oui, les sages reconnaissent effectivement un principe que l'on défendait, que l'hôpital ne soit pas exclu de la mise en place du pass sanitaire. Ça va être aux hospitaliers de s'organiser. Ça va pas être simple. Hein. Le pass sanitaire, c'est pas la panacée, mais on est dans on lutte contre une épidémie. Il faut, je veux dire, arriver à s'organiser. Donc on le fera. On le fera en mettant en place des contrôles, et ça, c'est aux entrées des établissements.
Il peut y avoir un refus de soins, quelque part, philosophiquement ?
De la part
de vous,
la part
de votre personnel, voilà.
Ah non, je pense pas. Je pense que les hospitaliers, c'est leur mission, ils la feront. Vous savez, enfin, ce qui est très important, c'est de laisser la main du choix finalement.
Mais qui décide ? C'est vous en tant que président ? C'est vous en tant que patron d'hôpital ? C'est qui décide ?
C'est l'urgentiste ? Ce sont les soignants. Moi, je suis pas un soignant et j'ai beau présider le conseil d'administration de mon hôpital, je ne me mêle pas des choses dès lors que ça concerne le soin. Donc le soin, c'est pour les soignants, et c'est donc aux soignants de dire quel est, pour tel et tel patient, quel est le caractère secrétaire d'urgence, quelqu'un qui ira effectivement, et le ministre l'a rappelé, Olivier Véran, quelqu'un qui ira rendre visite peut-être à une personne qui est en fin de vie, on ne regardera pas son passe vaccinal.
Alors qu'on devrait.
De l'humanité et de l'urgence. Oui, mais il y a la
présence. Non, mais Frédéric Valtoux, si on écoute la Constitution, on devrait.
Je pense que ce qui est important, c'est de laisser à la libre appréciation aux équipes soignantes, de manière, je vais dire, parce que je ne vais pas dire que chaque cas est unique, mais presque, et qu'en fonction de l'état du patient, en fonction de la pathologie, c'est au médecin, aux soignants de dire s'il y a urgence ou pas pour la prise en charge, c'est au médecin et aux soignants de dire s'il y a besoin d'un accompagnement, et donc effectivement qu'on puisse avoir accès plus facilement pour la famille ou pour les amis.
Odile Pouget.
Mais ça leur met, Frédéric Valtoux, une charge énorme sur le dos à ces soignants.
Bien sûr, je disais que c'était pas la panacée, le pass sanitaire. Vous savez que notre fédération défend l'idée d'une obligation vaccinale pour toute la population, qui serait quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, et surtout de manière plus radicale et plus efficace dans ce combat contre le Covid-19. Bien sûr que la responsabilité va peser sur leurs épaules, mais j'allais dire c'est aussi leur mission, leur formation qui fait que tous les jours ils ont des décisions à prendre, d'orienter vers tel ou tel soin, tel ou tel patient, en fonction de l'état de chacun. Donc c'est une appréciation qui leur revient. Je pense qu'il était important, c'est d'éviter une liste administrative, bureaucratique des cas où on n'a pas besoin d'un pass sanitaire et des cas où on demande le pass sanitaire. On n'est pas tombé dans cet excès-là, et tant mieux.
Attention quand même qu'il n'y ait pas des soins à la tête du client, hein. C'est ce qu'on peut se demander ce soir, encore une fois.
Hein. C'est pas ce que font les hospitaliers.
J'entends bien.
C'est pas la manière dont ils ont l'habitude de travailler. Je pense que c'est pas la vertu et la grandeur de l'hôpital, c'est pas celle-là.
Dernière précision peut-être avec vous, Frédéric Valtoux, avec Odile Pouget. L'obligation vaccinale des soignants, on la comprend, on sait qu'il y en a certains qui sont en grève. Ça veut dire qu'aujourd'hui, techniquement, est-ce qu'il y a il y aura automatiquement peut-être des soignants, des infirmiers, voire des pompiers qui ne seront pas vaccinés, on a bien compris. Donc on ne peut pas les licencier non plus, mais on a besoin d'eux. Comment fait-on avec eux? Et c'est eux qui vont décider de savoir qui est-ce qui rentre ou pas dans votre hôpital pour se faire soigner.
Alors, on verra où on en sera le 15 septembre. Pour l'instant, la vaccination, elle avance, aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD. Tous les jours, il y a plus de soignants qui se font vacciner pour répondre à cette obligation vaccinale qui s'impose à eux. Donc,
on rappelle que c'est le 15 septembre à la date limite, hein, c'est ça, hein,
bien sûr. Voilà, donc c'est le 15 septembre. Donc, on fera le bilan. On va pas faire des scénarios comme ça, mais des plans sur la comète. On fera le bilan le 15 septembre. Il y aura inévitablement, est-ce que ce sera en quelques centaines, quelques milliers d'irréductibles. Je rappelle qu'il y a 1 million de personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc, il y aura toujours ne serait-ce que sur les effectifs hospitaliers. Cette obligation, elle s'applique à l'ensemble des soignants publics et privés, mais ne serait-ce qu'à l'hôpital, il y aura toujours de toute façon une très infime partie de personnel qui ne voudront se faire vacciner. Bon, il y a des mesures administratives qui seront mises en œuvre. Ce sera, j'espère, le plus marginal possible.
Merci mille fois d'avoir témoigné ce soir. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière
Merci
de France, d'avoir été avec nous, aux côtés d'Odile Pouget, spécialiste santé, que je remercie. Également, la santé, vous l'avez bien compris aujourd'hui, avec cette proposition de loi qui est tombée. Donc, pour les urgences, aucun souci. Après, ce sera donc, non pas au cas par cas, mais aux soignants de décider si vous pouvez accompagner quelqu'un en fin de vie, par exemple, ou simplement vous faire opérer pour une opération qui était prévue de longue date. Les autres grande ligne de ce Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui a donc validé, ratifié la proposition de loi du gouvernement, avec l'isolement de 10 jours qui maintenant n'est plus obligatoire en cas d'infection au Covid. Et puis encore, si vous travaillez, vous le savez, dans des établissements où il y a du public, il faudra montrer patte blanche là aussi, il faudra vous montrer un pass sanitaire, autrement vous serez obligé de vous arrêter de travailler, mais vous ne serez pas licencié si vous êtes CDD. Puis on termine avec les restaurants, les cafés, le pass a été validé, et on n'oublie pas non plus les centres commerciaux, et le délégué général du Conseil national des centres commerciaux reviendra sur les mesures Gontran Turing, donc adoptées par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Dans le journal de 19h, il sera notre invité tout à l'heure, évidemment, sur RTL. Restez avec nous, dans un instant, on parle des Jeux Olympiques.
RTL Soir. RTL à Tokyo.
Et l'incroyable performance de nos équipes, c'est vrai, incroyable, équipe de France, le Sport Co. Au sommet, Nicolas Burnand, bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Merci d'être là si tôt ou si tard, je ne sais jamais, Tokyo avec vous.
Si tard,
d'accord. Trois finales quand même pour les sports co, c'est assez génial quoi. Une pour le volley, une pour le hand, même si on a un petit peu l'habitude. Et puis une de prestige qui nous fait encore plus rêver, bien sûr, c'est France-États-Unis pour le basket, Nicolas.
Oui, et ce geste complètement fou, le contre de Nicolas Batum, qui a tapis de super-héros sur le panneau en plexiglas du panier qui dégage la balle de match des Slovènes à 2 secondes de la fin. Victoire 90-89. Evan Fournier sur un petit nuage. Il est au micro de nos confrères de France Télévisions.
On dit depuis le début qu'on n'est pas venu pour rien. Voilà, là, il y a beaucoup d'émotions. On est tous très contents, mais Nico a fait du Batman sur la fin. Donc voilà, ce soir, on va kiffer. On sait ce qui nous attend. On a battu les États-Unis lors du premier match de poule, qui vont être remontés. Mais il faut se remobiliser parce qu'on est venu chercher là.
La France affrontera les États-Unis, triple champion olympique, donc 21 ans après la finale perdue aux Jeux de Sydney. Quelques heures plus tard, à l'Ariac Arena, les volleyeurs tricolores n'ont pas fait durer le suspense face aux Argentins. Défense solide, attaque impeccable. Trevor Klevenau est déjà prêt à retourner au charbon. Il est avec France Télévisions.
C'était vraiment un très très gros match. On sort d'un gros combat contre les Argentins et sortir avec une belle victoire 3-0, c'était vraiment important. Si on doit mourir, on va mourir les armes à la main. Et puis je pense que c'est la mentalité qu'on a là depuis quelques matchs. Et voilà, on va juste tout donner.
Ah, tout donner, oui.
Les Français n'ont pas. Les Français, vous l'avez entendu, n'ont plus peur de rien. Ils rencontrent la Russie samedi pour leur finale historique.
On se régale d'avance. Bien sûr, Nicolas Burnand, puis on n'oublie pas le handball, même si on est un petit peu plus habitué quand même. C'est une très belle habitude. La victoire 27-23 tout à l'heure face à l'Égypte et quatrième finale olympique donc consécutive pour nos Bleus, Nicolas.
Oui, pour cette participation au JO, les Bleus n'ont pas eu la tâche facile, mais ils se sont défaits des Égyptiens. Le gardien Vincent Gérard, imparable, 17 arrêts. Nicolas Karabatic se pince pour y croire.
C'est fabuleux, je réalise pas encore ces moments de joie avec l'équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. On s'est battu, ça a été un match très difficile. Les Égyptiens ont très bien joué, ils se sont battus. Et nous, on a tenu tout le match, on a réalisé une grosse performance. C'est magnifique, je suis heureux.
Nicolas Karabatic au micro de France Télévisions. Les handballeurs tenteront de décrocher leur troisième titre olympique. Ça sera face au Danemark.
Mais bien sûr qu'on va le faire, Nicolas, grâce à vous. Et puis demain, n'oublie pas qu'il y a les demoiselles. Hein. 2 sports courts encore, ça nous ferait 5 finales. Ce serait juste exceptionnel. On a hâte. À demain, Nicolas Burnand. Et à tout à l'heure aussi, parce que vous revenez dans 10 minutes, évidemment, pour refaire les jeux côté de Jean-Michel Rascol et de Christian Olivier. Et puis les médailles du jour. 26, 27. Magnifique quand même. Hein. 27 médailles et la médaille d'or pour Steven Dacosta, ravi pour quelques heures, pour quelques années d'être champion olympique. C'est la première fois qu'il est karaté, mais dans 4 ans, il n'y aura pas, malheureusement, à Paris, d'épreuves de karaté. En tout cas, il a saisi l'occasion de devenir champion olympique dans la catégorie des moins de 67 kilos. Steven Dacosta.
Franchement, je ne réalise pas parce que tellement de poids sur mes épaules pendant tant d'années. Ce que le public ne se rend pas compte, c'est que nous, on se prépare pendant des années pour des fois une journée ou une minute. Et ce que j'avais sur le dos, c'était... Et aujourd'hui, là, soulagement. Mais j'ai toujours cru. Je me disais, là, c'est mon jour aujourd'hui. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je sais ce que je viens chercher. Je suis heureux de représenter la France, même si c'est que à Tokyo pour le moment. Après, j'espère qu'en voyant des choses comme ça, ils peuvent essayer de faire changer la décision quand même. On a un sport magnifique aujourd'hui. Il y a eu énormément de points, énormément de shows. Et on ramène quand même de l'or pour la France.
Ouais, c'est beau quand même. Oui, c'est vrai, ce serait bien peut-être. Pourquoi pas une épreuve de rattrapage de karaté pour les Jeux de 2024 chez nous en France. À 19h, on va se rendre dans un village magnifique qui résonnait évidemment au coup de Steven Dacosta. C'est son village. C'est le village de Mont-Saint-Martin, près de Longwy. On sera tout à l'heure, évidemment, en direct. Et le bar s'appelle le Baromètre. Donc on aura vraiment l'attention ce soir de cette médaille d'or. Et puis autre belle histoire, c'est celle évidemment de Kevin Mayer qui a réussi, Isabelle Langer, malgré la douleur, à toucher de l'argent. Merveilleux quand même pour notre dieu du stade.
Ah oui, un phénix qui renaît de ses cendres, un guerrier. Kevin Mayer nous disait être tout cela après ses 2 jours à se battre contre lui-même et surtout la douleur. Ce limbago qui a mis fin à ses rêves d'or olympique, mais cette médaille d'argent a tout de même une saveur exquise pour le décathlonien, meilleure même que celle de Rio, nous a-t-il dit, parce que le détenteur du record du monde a souffert pour la décrocher. Il le reconnaît, à part la hauteur et le javelot, c'était l'enfer de A à Z pour lui. Mais grâce justement à ce lancer de javelot venu nulle part, un jet à 73,09 m, record personnel, eh bien Kevin Mayer a accroché cette deuxième place et dans la dernière épreuve, le 1500 mètres, le Français n'avait besoin que de gérer pour être certain de monter sur cette deuxième marche du podium.
C'était des ascenseurs émotionnels de déception et de réussite qui étaient assez incroyables et ça mène à une médaille d'argent qui était vraiment inespérée avec mon état physique. Donc franchement, aujourd'hui c'est un énorme plaisir. Je me suis battu, j'ai allongé mes tripes sur la piste et j'y suis allé. Et c'est de ça que je suis le plus fier.
Voilà Christophe, un extrait de l'entretien de Kevin Mayer que vous pourrez entendre en intégralité dans On refait les Jeux à 18h30. Le champion qui donne déjà rendez-vous à Paris en 2024.
Merci mille fois Isabelle Langer. On refait les Jeux, ce sera avec Christian Olivier. Olivier Jean-Michel Rascol dans 6 minutes maintenant sur RTL. On parle de notre planète, hein, toujours en danger avec le réchauffement climatique, beaucoup d'incendies, vous l'avez entendu tout à l'heure également à midi et demi, on en reparlera, que ce soit en Grèce ou encore en Turquie. En tout cas, cela faisait longtemps que les États-Unis n'avaient pas apporté un peu de leur bon vouloir aux efforts de tout un chacun pour préserver notre planète Terre. Le président américain Joe Biden veut qu'en 2030, la moitié des voitures vendues aux USA soient tout simplement sans émissions, c'est-à-dire des voitures électriques, hybrides, rechargeables ou à hydrogène. Il va développer tout cela dans quelques instants devant la presse, Loubna Naki.
Pour annoncer son plan depuis la Maison-Blanche, Joe Biden sera entouré des patrons des grands groupes automobiles du pays, notamment General Motors et Ford. Le président américain souhaite que son pays soit plus compétitif en matière de voitures électriques face à la Chine et à l'Europe, car le pays a du retard à rattraper. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les véhicules électriques ne représentent que 2% des ventes de voitures neuves aux États-Unis contre 10% en Europe. Le président Biden devrait également annoncer de nouvelles règles plus strictes sur la consommation de carburant et la performance énergétique des voitures, des règles qui avaient été assouplies par Donald Trump, beaucoup moins soucieux des questions de climat.
Loubna Anaki en duplex de Washington pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour Rihanna. Mais oui, vous l'adorez, 5 ans sans chanson et pourtant elle fait désormais partie, en tout cas, des milliardaires de la musique. C'est incroyable, c'est la chanteuse la mieux payée au monde aujourd'hui, tenez-vous bien, 1,7 milliard de dollars. C'est tout simplement un vrai diamant. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Comment en est-elle arrivée là? C'est la question du soir, c'est bientôt pour nous. Nathan Bocard, bonsoir à vous alors.
Bonsoir, eh bien, elle arrive là en étant une femme d'affaires tout simplement, autant oui. qu'une chanteuse. Parce que la plus grande partie de sa fortune, elle ne vient pas des albums, mais en fait du maquillage. En 2017, elle a créé Fenty Beauty, sa propre ligne de cosmétiques. Et c'est un énorme succès dès le début. Alors un succès qu'elle doit partager avec le groupe LVMH, hein, qui est son partenaire dans l'affaire. Mais quand même, la marque lui rapporte aujourd'hui 1,4 milliard de dollars. Et Rihanna ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi lancé sa marque de lingerie, Savage Fenty. Un sens des affaires qui lui vaut aujourd'hui d'être l'artiste la plus riche du monde, derrière l'animatrice et productrice américaine Oprah Winfrey. Ah. Et avec cette fortune, on s'imagine qu'elle a de quoi s'acheter pas mal de diamants.
Toute la collection de Rihanna sur RTL.fr, bien sûr. Hein. Cosmétiques, la lingerie, ses disques, il y a tout.
On vend tout.
D'accord. On retrouve tout ça sur RTL.fr. Dans un instant, votre plateau télé. Comme tous les soirs, ce sera avec Laurent Marsic.
RTL Soir. RTL Soir, Christophe Paco.
À la télé ce soir, comme tous les soirs, c'est avec Laurent Marsic. Bonsoir à vous Laurent.
Bonsoir Christophe.
Un peu de rêve et de paysage lointain ce soir à la télévision.
Oui, c'est un des jolis rendez-vous que de l'été que fixe chaque année France 5 aux téléspectateurs. Je dois confesser que j'en suis fan. Des trains pas comme les autres nous entraînent ce soir au Kenya, en Afrique. Philippe Googler part à la rencontre d'un peuple ô combien respectueux de la nature. Les Maasai, étonnant voyage où il va notamment découvrir comment ces éleveurs tentent de vivre en harmonie avec la nature sauvage qui les entoure. Rencontre par exemple avec une équipe de traqueurs de lions.
Notre but est de savoir où sont les lions et donc de prévenir les Maasai et les villages alentours qu'un lion sauvage est dans les parages pour éviter qu'il ne tombe nez à nez avec eux. Le but final, c'est que les hommes et les lions vivent en harmonie.
Et tu sais, au Kenya, les animaux sauvages sont surtout dans les zones habitées par les Maasai. L'explication, c'est que nous, les Maasai, nous sommes des éleveurs. Donc la viande que nous mangeons, elle vient de notre bétail, on ne chasse pas. Alors que dans les autres tribus, eux, ce sont des chasseurs, et leur viande, eh bien, elle vient des animaux sauvages. Chez les Maasai, tuer un animal sauvage, c'est totalement tabou. On ne les tue pas, on les préserve.
Patrick, on a vu des éléphants autour. Ils ne sont pas loin. Donc fais attention à ce que ton troupeau n'aille pas par là.
Et puis vous verrez une très belle séquence avec des éléphantaux orphelins. Beau voyage, très beau voyage, des trains pas comme les autres sur France 5. La vie sauvage, il en sera aussi question avec ce petit bonbon de notre enfance, qui est déjà vieux mais c'est pas grave. TF1 rediffuse Un Indien dans la ville, film des années 90 avec Thierry Lhermitte et Patrick.
Il y avait une chanson, non ?
8 millions d'entrées, ouais, exactement. À l'époque, au cinéma, l'histoire d'un père qui découvre qu'il est père d'un enfant sauvage.
Maintenant, moi, comme toi, aimer une femelle. Grande image devant les yeux. Puis voir les autres.
Je suis désolé, Mimi. Va falloir que tu l'oublies.
Quand Palikou parti, t'as oublié ?
Non, au début, t'as toujours l'image devant les yeux.
Ah, c'est bien.
C'est tout tendre, un indien dans la ville sur TF1.
C'est pas chacun sa route, chacun son chemin. C'est ça, ou destin, peu importe, mais c'était une très très belle. C'était une très belle idée ce soir, ce film Un indien dans la ville. Un documentaire pour réfléchir, pour terminer ?
Oui, la chaîne LCP rediffuse un documentaire ce soir à 20h50 consacré aux livreurs, leur vie de l'intérieur, ces prolétaires 2.0 qui dénoncent régulièrement leurs conditions de travail. Les délivrer, c'est le titre de ce documentaire saisissant qui va nous montrer tout le combat de ces forçats du bitume pour faire reconnaître leurs droits de Nantes à Bordeaux en passant par Paris. Bienvenue dans l'univers cynique et brutal du travail ubérisé.
60, midi, j'ai tourné à 5,93 € de l'heure. Mais globalement, depuis que j'ai commencé, j'ai tourné à 11,01 € de chiffre d'affaires de l'heure. C'est limite du manque de respect, quoi, en fait. C'est même plus du manque de considération, là. C'est du manque de respect, en fait.
Voilà, documentaire à voir sur LCP 20h50. Et puis une dernière info qui va intéresser les fans de foot, c'est l'épilogue de l'épineux dossier, enfin l'épilogue provisoire de l'épineux dossier des droits du foot mettant en scène Canal+, Beansport et la Ligue de football. Le tribunal de commerce de Nanterre a tranché aujourd'hui et ordonné cet après-midi à Canal+ de payer et diffuser les deux matchs de Ligue 1 par journée dès ce samedi, ce qui fait que c'est donc bien la chaîne cryptée qui devra diffuser 3 Paris Saint-Germain samedi et Metz Lille dimanche et s'acquitter de la facture de 68 millions d'euros attendue par la Ligue aujourd'hui. Canal a fait appel.
Merci à vous Laurent Marsic, 18h31.
RTL Soir. Christophe Paco.
Le rappel des principaux titres de l'actualité, l'extension du pass sanitaire qui a été approuvé tout à l'heure par le Conseil constitutionnel avec tout de même quelques aménagements. Comme oublié, l'isolement de 10 jours en cas d'infection Covid. Et puis dès lundi, si vous travaillez dans un lieu public, il vous faudra disposer tout simplement d'un pass sanitaire. Mais en aucun cas, la non-vaccination ne pourra être un motif de licenciement pur. Et simple, pas non plus, pas de problème pour le pass sanitaire validé, cette fois encore, pour les cafés et les restaurants. Et puis faire vos courses dans certaines enseignes d'un centre commercial, ce ne sera pas facile hein, tout de même. On en reparlera tout à l'heure à 19h justement. Et puis enfin, il faudra montrer patte blanche pour se faire opérer aujourd'hui, sauf en cas d'urgence. Le Premier ministre Jean Castex s'est félicité de cette décision qui permettra, je cite, le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19. Les Jeux Olympiques de Tokyo et ce beau bilan de santé du sport collectif français, ça passe. Nous sommes en finale, en volley, en handball, en basket chez les garçons. Demain, on surveillera les demoiselles. Et puis, deux nouvelles médailles pour la France. De l'or pour le karatéka Steven Dacosta et de l'argent pour Kevin Mayer. La météo pour demain, côté ciel, Louis Baudin, un peu d'éclaircie et surtout, un peu moins d'averse. C'est bien,
non ? C'est vrai, c'est un petit peu mieux. Hein. On conservera cette alternance entre passage nuageux, éclaircie et averse. Mais dans l'ensemble, par rapport à ces derniers jours, les éclaircies seront plus belles. Du coup, un peu moins de nuages et puis des averses un petit peu plus dispersées. Ça, c'est vrai dans la moitié nord. Dans le sud, ce sera encore mieux puisque là, en cours d'après-midi, le soleil dominera sans risque de pluie. Toujours un peu de vent du côté de la Corse et les températures. Bah, on profite pour grimper un peu l'après-midi. 19 à 24 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 25 degrés dans les régions du sud-ouest et 28 à 31 degrés même près de la Méditerranée.
Fantastique, c'est bientôt l'été, on l'a dit. Les Jeux, on s'est régalé encore aujourd'hui. Quelle journée! 27 médailles. Les sports co à l'honneur. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir Christophe.
Et de l'or, je le disais, et de l'argent en plus.
Les invités seront là avec leurs médailles.
Bien sûr.
Steven Dacosta, Kevin Mayer, exact au rendez-vous dont refait les jeux.
Le grand duo du soir, Jean-Michel Rascol, Christian Olivier, jusqu'à 19h.